Le débat politique d'aujourd'hui est consacré à la plainte des étudiants de l'université de Bangui. En effet, cela fait plusieurs années que les étudiants ne cessent de se plaindre du contenu des cours qui leur sont dispensés, la non-réactualisation des cours par certains professeurs, le non-respect des heures des cours, le non-respect du calendrier académique. Bref, ce que certains observateurs sociaux appellent formation au rabais sont autant des préoccupations de ces étudiants de l'université de Bangui. Question, comment explique-t-on le dysfonctionnement qui perdure depuis des années? Est-ce un laisser-aller qui s'installe au sommet de l'instance dirigeante? Pourquoi la rentrée académique universitaire n'est-elle plus uniformisée jusqu'à aujourd'hui? Les doyens, les chefs de département, les directeurs, bref, les responsables universitaires font bien leur travail? Sont-ils à la hauteur de leurs tâches? Pourquoi dit-on que la politique s'est infiltrée dans l'université? Voilà quelques dysfonctionnements, quelques questions qui guideront notre débat du jour. Pour en parler, je reçois sur le plateau du studio B du média numéro 1 de Centrafrique, M. Joseph Bindoumé, bonjour.
Bonjour.
Président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme, LCDH, et magistrat hors hiérarchie, M. Louis-Marie Kokringbo, bonjour.
Bonjour Armando, bonjour à nos auditeurs.
Voilà, secrétaire général de l'Organisation démocratique syndicale des travailleurs de Centrafrique, M. Alexis Ndouyabela, bonjour.
Bonjour.
Constitutionnaliste et ancien directeur de l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM, membre du parti au pouvoir. Et Raymond Adouma, bonjour.
Bonjour.
Membre de la coalition de l'opposition démocratique 2020 et ancien ministre. Armando Nguindi, c'est moi. Je suis accompagné de Fabiola Dos Santos, journaliste chercheuse à l'université de Duisburg, Essen en Allemagne. Bonjour à toutes et à tous. Patara, c'est après cette courte pause.
Vous écoutez Patara? Le débat politique sur Radio Ndekeluka.
Voilà, une fois de plus, bonjour, l'actualité oblige. Les chefs d'État de la région des Grands Lacs ont validé la feuille de route pour la paix en Centrafrique. C'était jeudi dernier à Luanda, en Angola. Que vous inspirent les grandes lignes du communiqué de ce sommet d'un jour? D'abord, monsieur, vous remuez la tête. Voilà, monsieur Joseph Bindoumé.
Je vous remercie beaucoup. J'ai suivi aussi, au nom de la Ligue, avec beaucoup d'attention, ce mini-sommet de Luanda. J'ai lu aussi très attentivement le communiqué de presse qui a été rendu public le 16, après la tenue de ce sommet. Donc, je voudrais simplement observer que c'est le troisième sommet de l'année, parce qu'en janvier, il y a eu un premier mini-sommet, et puis en avril, un deuxième mini-sommet. Et en septembre, nous avons un autre mini-sommet qui est le troisième de l'année. Nous ne sommes qu'au mois de septembre, donc il n'est pas impossible que nous ayons encore un autre sommet. Et donc nous battons quelque part le record de sommet sur la crise en République centrafricaine. Donc pour une seule année, nous en avons eu déjà trois. Ça veut dire que nous avons battu les records, au moins en Afrique centrale, de mini-sommets. Je souligne que ça va faire plus de 5 ans que nous réunissons les organisations de la sous-région, les organisations internationales sur la République centrafricaine. Malheureusement, de sommet en sommet, nous n'avons pas encore réussi à trouver la solution idéale pour la République centrafricaine. Donc, à moins que vous me demandiez de poursuivre, puisque j'ai lu...
D'abord, le contenu, hein, donc, le contenu de ce document, de ce communiqué final qui nous intéresse.
Alors, le contenu est tout à fait révélateur. Alors, je note trois ou quatre passages sur le contenu. L'un des passages, c'est que la PPR-RCA a été considérée par le sommet comme une référence pour la recherche de solutions. J'indique que la Ligue centrafricaine des droits de l'homme qui suit la situation en République centrafricaine, la PPR était la seule voie de sortie de crise en République centrafricaine. Donc c'était au départ considéré comme la seule voie de sortie de crise en République centrafricaine. Maintenant, au mini-sommet, la PPR-RCA est considérée comme une référence à laquelle on peut regarder pour chercher des solutions durables en République centrafricaine. Ça veut dire qu'il y a une certaine évolution. La deuxième chose que j'ai regardée, qui a appelé aussi mon attention, c'est qu'on demande que le groupe armé aille vers le DDRR. Mais dans ce communiqué de presse, on indique que la non-impunité devrait être prise en compte, non-impunité. Donc la lutte contre l'impunité devrait être prise en compte en même temps que le suivi du DDR-RCA, enfin le suivi de DDRR. Donc ça veut dire quoi en clair? Ça veut dire que nous punissons les gens qui font n'importe quoi, Mais en même temps, dans la même logique, nous demandons que les gens désarment et revenir à l'accord politique pour la paix et la réconciliation. Alors donc, il y a un problème. Le troisième point qui a retenu mon attention dans ce communiqué de presse, c'est qu'on n'a pas demandé aux parties belligérantes un accord de cesser le feu. Suivez mon regard. Mais on a demandé à la République centrafricaine de proclamer sans délai un cessez-le-feu. Si vous l'analysez politiquement, ça veut dire que la République centrafricaine est à l'origine des violences en République centrafricaine. Et dans ces conditions, nous invitons le gouvernement à un cessez-le-feu immédiat.
Or, lorsqu'on parle d'un cessez-le-feu, il devait y avoir un affrontement entre. Mais pour l'instant, ça fait quelques mois, il n'y a plus d'affrontement sur le terrain entre les forces loyalistes et les groupes armés.
Voilà. Et donc, même s'il n'y a plus d'affrontement, il n'y a pas plus de raison de réclamer le cessez-le-feu. Mais maintenant, si on réclame le cessez-le-feu aux belligérants de deux côtés. On ne peut pas dire à la République centrafricaine, on vous demande de proclamer le cessez-le-feu. Et on dit.
Et donc, vous comprenez quoi dans cette.
Je comprends que lorsque on reconnaît qu'il y a deux belligérants qui se battent, la CPC et les forces armées centrafricaines, si on doit demander aux forces armées centrafricaines de déclarer le cessez-le-feu, on doit inviter en même temps l'autre côté de cesser le feu. Parce que si nous nous battons, on me dit croise les bras pendant que l'autre vient te donner le coup. C'est pas bon. Il faudrait qu'on dise aux deux parties d'arrêter de se battre. Donc le cessez-le-feu, et même si on demande à la République centrafricaine en tant qu'État souverain
de déclarer,
mais on doit demander à l'autre partie de respecter le cessez-le-feu tel que déclaré par la République centrafricaine.
Voilà, mais lorsque les chefs d'État ont souhaité que des consultations avec les leaders de groupes armés sans donner des précisions se poursuivent pour un abandon total de la violence, n'est-ce pas que l'accord de Khartoum reste et demeure utile pour la paix, monsieur Adouma?
C'est le schéma du gouvernement, c'est ce que je note, parce que il faut comprendre comment les organismes, disons les partenaires internationaux qui nous appuient fonctionnent. Et je voudrais profiter de ce micro pour leur témoigner toute ma reconnaissance pour les efforts qu'ils ne cessent de faire afin d'aider la République centrafricaine à sortir de cette crise récurrente, cette crise qui tend à ne pas finir, malheureusement, on les épuise. Donc les partenaires généralement accompagnent le gouvernement dans la résolution de ces problèmes. Et donc, comme eux, ils accompagnent et donc ils appuient le schéma que leur présente le pouvoir en place. Et donc, pour le pouvoir en place, le schéma de sortir de crise, c'est l'APPR. En même temps qu'ils prônent l'APPR, et c'est la nouveauté effectivement qu'on a vu apparaître dans ce communiqué final.
Ouais.
Donc, en même temps qu'ils sont en train de soutenir l'APPR, en même temps également, ils privilégient la solution armée. Parce que, en réalité, pour le gouvernement, c'est l'utilisation de ses partenaires russes et autres qui va lui permettre de régler le problème des groupes armés. Mais dans le même temps, il leur demande de revenir, il demande aux groupes armés qui ont déjà quitté cet accord de paix de revenir. Ça parle ici de revitalisation. Ça veut dire que c'est déjà un accord qui est mort si on doit le revitaliser. Parce qu'il y a un nombre important de groupes armés qui ont quitté cet accord déjà. Donc on veut le revitaliser. Et du coup, on prône un dialogue à deux vitesses. Donc un dialogue avec les groupes armés à part et un autre dialogue avec les autres forces vives de la nation à part. Ce que l'opposition dénonce et pense que c'est des arrangements qui ne vont pas régler la crise centrafricaine. Déjà, la PPR a échoué dans son application. Et nous en avons vu les résultats. Et même très tôt, on le disait déjà, on n'a pas cessé de tirer la sonnette d'alarme. Quand la PPR a été signée, on a alerté pour dire que c'est pas normal. Il fallait l'implication de toutes les forces vives à la négociation de cet accord. On ne nous a pas entendus. Et par la suite, lorsque la PPR a été signée, on a assisté à une vague d'exactions de la part des groupes armés qu'on a commencé à dénoncer à l'époque. Le pouvoir en place, lorsque nous faisions ces dénonciations, traitait l'opposition d'ennemis de la paix et traitait les groupes armés de partenaires de la paix à cette époque-là et ne faisait rien pour faire taire ces violences. Aujourd'hui, on arrive à une situation où il y a des accords entre les parties prenantes à l'accord de Khartoum. Et quand ces groupes armés se sont attaqués au pouvoir, et c'est là où le pouvoir s'est préoccupé de régler les problèmes des groupes armés de manière militaire. Et aujourd'hui, on se rend compte que ce règlement, par la voie armée, ne suffit pas. Mais on essaie quand même de maintenir artificiellement la PPR, qui n'est pas la solution.
Et pour vous, la solution, c'est quoi?
La solution, c'est un dialogue inclusif où les groupes armés viennent pour nous dire pourquoi ils continuent de faire des exactions sur le peuple centrafricain. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la signature de la négociation de la signature de l'accord de Khartoum et pourquoi ils en sont arrivés à sortir de cet accord et qu'est-ce qui explique toutes ces vagues de violence? Nous avons besoin de savoir, le peuple a besoin de savoir. Et c'est pour cela que nous en appelons à un dialogue total, inclusif.
Monsieur Louis-Marie Kogrembo, sur cette situation, le dernier communiqué du troisième sommet de Luanda, que vous inspire effectivement ces mises au point sur la question de paix en Centrafrique?
Merci beaucoup, monsieur Armando. Et je suis un peu gêné si vous me posez une telle question. Parce qu'en tant qu'observateur de la vie sociale, nous n'avons pas trop à nous prononcer sur de tels problèmes, mais nous observons. Et ce que je sais, c'est que moi-même personnellement, j'ai été dans des groupes où nous avons été dans l'arrêt pays pour tenir des sensibilisations en ce qui concerne l'APPR. Et parce que pour nous, à l'époque, on pensait qu'il n'y avait pas une autre solution que la signature de l'APPR. Aujourd'hui, les donnes, on peut changer sur le terrain. Et donc, pour nous, en tant que syndicat, on l'avait déjà dit en son temps, et il faut aller à un débat inclusif, c'est-à-dire qu'un dialogue inclusif. Telle est notre position et nous gardons notre position. Et quand on dit qu'on va de sommet de plus en plus, nous pensons que c'est par le dialogue qu'il faut régler les problèmes de la République centrafricaine et non par les armes. Ça me gêne un peu de pouvoir aller plus loin que ça.
Mais est-ce que les deux solutions, en même temps, fouetter et puis parler de l'autre côté, vous ne pensez pas que ces deux solutions ne peuvent pas résoudre rapidement ce problème?
Ça a été dit en son temps qu'il fallait dialoguer et fouetter en même temps. C'est ce qui avait été dit. Aujourd'hui, on se rend compte que les donnes ont changé. Les donnes ont changé et pour nous, puisqu'on tient toujours à l'APPR, allons-y dans ce sens-là pour qu'il y ait la paix dans ce pays, parce que le travailleur en a besoin.
Et le point 5, le point 15, j'allais dire, de ce communiqué en son petit C, parle, je cite, « la poursuite des consultations avec les chefs des groupes armés pour une renonciation totale à la violence par tous les groupes armés ». Que comprenez-vous de cela, M. Ndouya Bella?
Bon, merci, je salue tout le monde, salue tous les débatteurs ici autour de la table. J'ai apprécié l'intervention d'une Bintouni qui a fait un peu la synthèse et a mis en exergue les points saillants de communiqué de Luanda. Je respecte, que je partage entièrement, je reviens là-dessus, mais comme vous me posez une question particulière sur le point que vous évoquez, que cela m'inspire. Ben, il y a eu déjà par le passé, comme a dit M. Bintouni, la communauté internationale s'implique dans la résolution de la crise centrafricaine au niveau international et au niveau sous-régional. Donc, au niveau sous-régional, le président en exercice de la conférence internationale région du Grand Lac a impulsé un processus, a pris à bras le corps la résolution de la crise en commençant par le mini-sommet de janvier qu'il a rappelé jusque-là. Alors, parallèlement à ce mini-sommet, il me semble que vous n'êtes pas sans savoir que des négociations ont été menées auprès des groupes armés par ces mêmes partenaires internationaux. Donc il ne s'agit pas, de mon point de vue, est-ce qu'on demande au gouvernement de mener des négociations? Non, il est clair, et je crois que le sommet l'a rappelé, le cadre idéal maintenant pour aller à la paix, sauf s'il y a une solution magique comme nous l'a rappelé tout à l'heure l'opposition démocratique, parce que bon, peut-être ils sont détenteurs d'une solution magique pour la sortie de la crise. Et bien, la voie unique pour l'instant, c'est l'accord politique. Un accord a été signé à l'époque entre le gouvernement et nos frères qui ont pris les armes. Et je saisis cette opportunité pour lever l'équivoque, ce que a rappelé le représentant de l'opposition démocratique. Il ne faut pas faire et semer la confusion dans l'esprit des Centrafricains. Je parle en tant qu'intellectuel. J'ai fait une analyse, une évaluation de l'accord politique du point de vue universitaire. Ce n'est pas en tant que peut-être représentant ou membre du MCU, mais en tant qu'universitaire, j'ai pris du recul, je l'ai examiné, je l'ai analysé.
Et ça
marche. Qui a marché, qui n'a pas respecté et qui n'a pas respecté du point de vue du droit. Qu'on a vu et que moi, ça sera publié. Cet article en question, je l'ai proposé pour une revue qui est pilotée par le petit frère Beninga. Une revue là en ce moment, c'est en voie de publication. Donc scientifiquement, j'ai démontré que le gouvernement s'est acquitté de ses responsabilités à 90%. Les groupes rebelles, bon, pour certains ont respecté, d'autres n'ont pas respecté, en signant l'accord de Kambakota. Ça, c'est une réalité qui est là, que tout le monde constate. Et donc le chemin, en tout cas sans pour autant faire du fanatisme, le chemin peut-être du président Alobik, c'est quoi? Dialoguer avec les frères qui ont pris les armes et de répondre à leur... Et puis, le sujet préoccupant, c'est la sécurité de la République centrafricaine. Mais maintenant, la confusion que crée l'opposition, que je ne partage pas totalement, c'est de dire non,
la voie de salut pour la résolution de la crise centrafricaine, c'est le dialogue politique inclusif. C'est une confusion tout à fait totale. Ils ont réclamé le dialogue politique au moment où on était encore dans le processus électoral. Et la Cour constitutionnelle est intervenue pour dire si d'ici 2020, avant les élections de 2020, si pour fait de cause du coronavirus, les élections ne se déroulent pas, il y a nécessité de convoquer les forces vives de la nature pour envisager l'avenir. Voilà ce que la Cour constitutionnelle a dit. Je le dis, je suis constitutionnaliste, j'ai lu cette décision et c'est ce que je répète ici. Mais maintenant, le risque qui planait, le risque de vacuité de pouvoir, parce que si on n'organisait pas les élections dans le délai, il y aurait vacuité, c'est-à-dire que le président de la République ne devait pas prêter serment le 31 mars. Mais maintenant, contre vents et marées, les élections se sont déroulées. Les auteurs, enfin, l'Assemblée, le président de la République a pris fonction. L'Assemblée nationale, parmi lesquelles se trouvent les membres de l'opposition, parce qu'il y a un groupe parlementaire de l'opposition, s'est installé. De quel dialogue politique inclusif, vous dire quoi? Et encore, je le répète, ce que je ne comprends pas en tant qu'intellectuel.
Non, pour vous, pour l'instant, que le dialogue républicain ou le dialogue c'est inclusif le dialogue, n'a pas droit
le président, d'être. Non, le président de la République, en tant que chef de l'État, lui, le problème était résolu. C'est que lorsqu'il y a une crise institutionnelle, que l'opposition démocratique peut revendiquer un dialogue politique. Mais de mon point de vue, quelle est la crise institutionnelle en ce moment au niveau de la République centrafricaine, en dehors de la crise sécuritaire? Ouais, la vie politique,
quelques secondes.
L'article 31 donne l'opportunité à tout parti politique d'animer la vie politique. Est-ce que l'animation de la vie politique consiste en la revendication des dialogues politiques par ça, des dialogues inclusifs par là, etc. Est-ce que c'est ça le rôle? C'est ça. Je me pose avec intellectuellement, je me pose cette question. Donc il ne faudrait pas qu'on induise le peuple centrafricain.
Voilà, vous avez épuisé le temps que je vous ai donné. Monsieur Adouma, vous voulez répondre quelques secondes sur ce point et puis on évolue.
Je voudrais tout simplement rappeler à mon co-débatteur que le dialogue dans la vie d'une nation est permanent. Ça, universitairement ou intellectuellement, il devrait le savoir. On n'a pas besoin nécessairement même de qu'il y ait des difficultés pour commencer à se parler. Mais à partir du moment où il y en a, parce que les élections sont la base des crises que connaît notre pays, ça, il ne le savait peut-être pas, je l'informe. Et donc, nous avons alerté avant les élections que ces élections seront très mal organisées. Et sachant que ce sont les élections qui sont la base des problèmes que connaît notre pays, il fallait que nous ayons une concertation sur la manière de bien organiser ces élections afin d'éviter l'actuelle crise. Et maintenant, on y est de plein pied. Et donc, il est nécessaire, effectivement, qu'on aille à un dialogue. Parce que le président de la République, il est légal. Peut-être c'est déclaré par la Cour constitutionnelle qui est inféodé au pouvoir. Mais il n'a pas la légitimité populaire, ça nous le savons tous.
Nous bouclons cette partie.
C'est son point de vue.
S'il vous plaît, revenons à notre sujet du jour. Les étudiants déplorent le dysfonctionnement au sein de l'université de Bangui. Selon eux, l'année académique n'est pas respectée faute de suivi de la part des responsables. Écoutons quelques points de vue de ces étudiants de l'unique université publique de Centrafrique.
Pour l'année académique, on n'en parle pas. Prenons notre cas, quand nous étions encore en première année, nous faisons un an et deux mois même. Ah ouais, c'est pas ça. D'après le calendrier normal, on devait faire seulement six mois. Mais ils respectent même pas.
Ça nous arrive aussi. D'autres professeurs ne respectent pas les heures de cours. Parfois, on leur donne 30 heures de cours, ils prennent seulement 10 heures et ça joue sur nous, les étudiants. Au lieu de faire 9 mois, on fait parfois 12 mois.
Ces pratiques-là, aujourd'hui, nous les déplorons. Ce n'est pas tous les professeurs, n'est-ce pas, qui font ce genre de pratiques-là, mais certains également, compte tenu également de, je sais pas, leur indisponibilité, sont obligés parce qu'ils ont peut-être des heures également dans d'autres établissements, soit à caractère privé, sont obligés aujourd'hui, au détriment de fournir en temps réel, de respecter les délais qui leur ont été donnés là pour s'en outrepasser et soit faire 10 heures à la place de 30 heures et par la suite remplir des cahiers de texte à la place, et c'est des pratiques qui sont aberrantes.
Et c'est ce qui se passe réellement même dans notre département. On voit que le cours c'est à partir de 7h30 et les profs viennent seulement souvent à partir de 8h30. Quand on a donc, ils font seulement une heure, mais ils obligent au chef de salle de remplir le cahier de mettre 2 heures. Donc c'est vraiment réellement des choses qui se passent dans notre pays.
Les policiers vont nous donner aussi. Ils réactualisent parfois, mais parfois ils ne réactualisent pas. C'est vraiment les anciens qui sont déjà datés depuis nos grands frères, nos aînés. Ce sont les mêmes cours actuellement qu'on continue encore de les faire encore.
Ces choses-là, c'est récurrent quoi. Par exemple, dans notre salle, on a 13 matières et il n'y a que 10 professeurs qui se sont déjà présentés et qui ont bien commencé. Mais les 3 autres, là, depuis, on ne les voit pas. On ne sait pas quand est-ce qu'ils vont venir. Et maintenant, on a dit qu'on va terminer au mois de décembre. Mais bon, les 3 profs-là, qu'est-ce qu'on va en faire de ça? Bon, c'est ça qui est à l'origine que les années puissent être tellement prolongées quoi. Au lieu de finir dans les délais, bon, certains profs ne sont pas là et quand ils viennent, ils obligent les étudiants à rester pour faire cours pendant 2 ou 3 mois avant de composer.
Vous venez d'écouter les avis des étudiants sur ce qu'ils qualifient de dysfonctionnement au sein de l'université de Bangui. Qu'en dites-vous, M. Ndouyabela, ancien et ancien vice-doyen de la faculté des sciences juridiques à l'université de Bangui?
Je vous remercie, monsieur le journaliste. C'est vrai, c'est une problématique assez vaste que vous posez. L'idéal serait de convoquer tous les responsables académiques, les doyens, pour que chacun essaie de donner, de dire, de répondre à la préoccupation ou aux préoccupations des uns et des autres.
Sans autant vous couper, que, je rappelle que nous avons invité le rectorat qui nous a envoyé monsieur Kingetona, mais il s'est désisté au dernier moment et il nous a appelé qu'il n'est pas du tout disponible pour ce genre de débat et on ne devait pas organiser un débat sur ce qui se passe à l'université de Bangui.
Voilà, c'est ça. Donc, je ne suis ni responsable du rectorat, ni responsable du décanat, mais en tant qu'ancien, je peux donner quand mon point de vue sur le dysfonctionnement au niveau de l'université de Bangui. Tous mes anciens sont là, ils sont passés par l'université. Avant, le calendrier académique était respecté. Mais arrivé à un moment donné, il y a eu un bouleversement. Est-ce que ce ne sont pas les bouleversements politico-militaires ou politiques que nous avons connus qui sont à l'origine de ce dysfonctionnement? De mon point de vue, je pense que oui. Moi-même, personnellement, j'en ai été victime. Au lendemain du sommet de la Bolle, qu'est-ce qui s'était passé en République centrafricaine? Toute l'Afrique était dans l'effervescence. Allons vers la démocratie, revendication, grève par-ci, grève par-là, mouvement du KNCN, etc. Et à la clé, à mon époque, nous avions connu 2 années blanches. J'ai fait 2 fois, c'est-à-dire que 2 fois la licence, 2 fois la maîtrise, indépendamment de ma volonté pour faire des événements politiques. Parce qu'il y avait des bouleversements à l'époque, on n'avait pas respecté l'année académique, et puis contre notre volonté, j'ai vieilli de 2 ans en arrivant en France pour poursuivre mes études. Donc j'ai fait mes études un peu en décalage par rapport aux jeunes de mon âge. Voyez, tout cela, c'est à mettre sur le compte des hommes politiques, des partis politiques, des mouvements qui organisent le bouleversement. Et ça joue à long terme sur les étudiants. Et là, c'est la même situation que nous sommes en train de traverser en ce moment. Vous voyez, depuis 2013, bouleversement, coup d'État, coup cela, mais ça influe également sur le fonctionnement. Si le pays est en paix, les autorités académiques peuvent planifier l'emploi du temps.
Mais lorsque vous parlez de l'insécurité, cela joue de quelle manière sur les cours, les heures, les horaires de cours?
Mais je dis, lorsqu'il y a un coup d'état qui bloque le fonctionnement, on devait faire les cours de telle période à telle période, et puis bon, on bloque. Toutes les institutions ne fonctionnent pas, les anciens ont peur, tout le monde est terrorisé. Comment on peut faire les cours normalement? Mais maintenant, indépendamment de ça, moi je suis arrivé vice-doyen, et le décalage a commencé depuis ça. Ça c'est du point de vue de, peut-être de la politique générale du pays. Mais du point de vue technique, le passage du système LMD, enfin du système classique au système LMD a eu également une influence sur le dysfonctionnement de l'université. On est passé du système classique où on organisait l'année académique, très bien, mais maintenant avec le système LMD, ben, on fonctionne autrement. Et tout le monde, est-ce que les enseignants centrafricains étaient préparés à ce système? Non, on a pris ça comme ça parce qu'il fallait copier rapidement, alors qu'il devait avoir une phase de préparation. Moi-même, je dis en partant de moi-même, quand j'avais fini mes études, le doctorat en droit à l'université de Nice, est arrivé le système LMD. Je me suis réinscrit en licence sciences politiques jusqu'en master de sciences politiques pour découvrir le système. Mais je me suis rendu compte qu'en France, ils ont commencé un peu plus longtemps. Ils ont préparé les enseignants et puis encore. Et ils ont les infrastructures. On implique le processus de LMLD comme ça. Vous voyez, aller à l'université de Bangui, il y a combien de salles de classe? Moins de salles de classe. Et puis les étudiants sont devenus plus nombreux.
Parce que déjà, en écoutant les étudiants, ils n'ont pas pointé du doigt le nombre insuffisant de salles de cours. Monsieur Joseph Bindoumi, vous venez d'écouter la plainte des étudiants de l'université de Bangui. Quelle est donc votre réaction sur ce point?
Vous savez, lorsqu'il y a un problème qui se pose en République centrafricaine, vous avez l'habitude de prendre des indicateurs. C'est comme aujourd'hui, si vous organisez un débat pour savoir comment marche l'école, l'enseignement. Moi, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on ramène cette histoire à l'université de Bangui. C'est une histoire de l'éducation nationale en République centrafricaine. Vous n'avez pas besoin d'aller systématiquement chercher des professeurs, chercher des enseignants pour connaître le problème de l'éducation nationale en République centrafricaine. Donc, moi, je pense que le débat que vous devez faire, c'était de rechercher, est-ce que le peuple centrafricain est intéressé par son éducation nationale. Entendu les élèves que vous avez entendus, élèves étudiants, entendu les parents d'élèves, entendu les bénéficiaires du système éducatif dans notre pays. Et donc aujourd'hui, vous êtes vous-même au courant que moi, je ne suis pas universitaire, je suis quelqu'un qui a fait des études. Mais lorsque nous regardons autour de nous, la guerre n'a rien à voir. La guerre n'a rien à voir, puisque quand même, on organise des rentrées scolaires, des rentrées universitaires. Et nous organisons des concours comme la licence, le baccalauréat, au moment où les autres années, les autres pays sont en train de faire une rentrée scolaire. Aujourd'hui, nous organisons le bac, peut-être en septembre ou octobre, alors que le bac a été déjà organisé dans les autres pays en juin. Ça veut dire quoi? Celui qui va avoir le bac ici ne pourra plus s'inscrire dans un autre établissement à l'étranger parce que là-bas, les inscriptions sont déjà considérées comme closes. Alors, pourquoi est-ce que en République centrafricaine, on ne se met pas, ceux qui ont l'éducation en main, ne se mettent pas autour d'une table pour dire que l'année scolaire commence du 1er octobre au 30 juin et que les élèves bénéficient de 3 mois de vacances scolaires pour se ressourcer auprès des parents avant de revenir pour l'année nouvelle. Et aujourd'hui, donc, on est rentré dans un imbroglio où on ne sait plus à quel moment commence l'année, on ne sait plus à quel moment se termine l'année, on ne sait plus à quel moment on passe tel examen.
Mais la rentrée à l'université est en dents de scie. Hein. Il y a certaines facultés qui rentrent un mois avant, 2 mois un peu plus tard pour les autres. Et c'est ce qui se fait. Hein.
Alors moi, je vous prends 5 ans. Prenez-moi 5 ans. Mmh. Est-ce que dans les 5 années, chaque année, vous avez trouvé la date fixe d'entrée à l'université?
Non,
ça n'existe pas. Et est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, à date fixe, à quel moment on fait le CP? À quel moment on fait le BPC? À quel moment on fait le baccalauréat? À quel moment on passe la licence, le doctorat ou le MLD, comme on dit? À quel moment? Pourquoi est-ce que les gens ne se mettent pas autour d'une table pour dire si nous avons suffisamment fauté? Il faudrait qu'on arrête. Je vous informe qu'il y a une année où nous avons fait la fête parce que nous avons eu 11% d'admis au baccalauréat en République centrafricaine. Et sur 11%, les écoles qui n'ont pas fréquenté cette année-là comme délai ont sorti le plus grand nombre d'admis au baccalauréat. Et ça nous a gênés, ça n'a gêné personne. Ça n'a gêné personne. Et nous allons recommencer encore cette année. Il y a des gens qui commencent à nettoyer leur terrain parce que le baccalauréat va commencer, on va quand même mettre la fondation cette année pour voir si l'année prochaine on va mettre les murs. Donc il y a un problème. Mettons-nous autour d'une table pour savoir qu'est-ce qui justifie que nous n'ayons pas d'année scolaire. Et puis, maintenant, je termine ici. Parce que quand vous rentrez dans nos administrations, vous voyez une page écrite par un fonctionnaire qui vous dit qu'il a la maîtrise, etc. Mais après, vous rigolez. Quand vous invitez les universitaires, les jeunes, à venir faire des débats en français, vous-même, vous vous dites, bon, quand la personne te dit, je suis à l'université de Bangui.
Et donc, vous voulez faire allusion à la formation au rabais?
Non, totalement au rabais.
C'est tout un système.
Totalement au rabais. Donc, ça veut dire
que... Bon, maintenant, on y revient pour voir à qui la faute. À qui la faute sur ce point? Si les heures de cours et le calendrier académique ne sont pas respectés, à qui incombe la faute, monsieur Raymond Adouma?
Merci, Armando. Il y a bien une politique dans ce pays, dans le domaine de l'éducation. C'est piloté par les hommes politiques. Et on ne va pas dire que la responsabilité incombe à d'autres personnes. Cela incombe actuellement au pouvoir en place. Et mon débatteur en face est bien placé maintenant pour dire qu'est-ce qu'ils sont en train de faire dans ce domaine-là pour redresser la situation que moi, je ne vois pas depuis 5 ans. Parce qu'il y a 2 institutions principales de la République qui sont tenues par des universitaires, à savoir la présidence de la République et l'Assemblée nationale. Et donc, on pouvait espérer mieux en termes de redressement de la politique dans ce domaine-là. Mais moi, j'ai l'impression, depuis plus de 5 ans, que la situation ne fait que se détériorer. Et je ne vais pas répéter ce que M. Bindoumou venait de dire. Lorsque vous voyez les outputs du système éducatif, vous avez honte de ce système. Je ne sais pas s'ils s'en rendent compte. Mais en tout cas, moi-même qui enseignais à l'université, j'ai été obligé de sortir moi-même du système. Parce que, quoi que je faisais bien, ma part à moi, mais j'étais déçu du reste. Et même si on voit comment on intéresse les professeurs. Parce qu'on les laisse un peu à la merci également des étudiants qui les courent facilement. Lorsque j'étais à l'université, on payait l'heure de cours à 4 500. Moi, quand je suis revenu 15-20 ans après pour enseigner à l'université, c'était pareil. On payait encore 4 500. Mais on ne motive même pas les cadres compétents à s'intéresser au secteur de l'éducation. Et aujourd'hui, moi qui ai assez d'expérience, si je dois repartir enseigner à l'université, ce n'est pas pour percevoir la même chose. Parce que je suis à même de concevoir des cours adaptés à un type de formation donné. Ce qui ne se fait pas. Et donc, on a beaucoup plus de gens qui arrivent avec des diplômes sur le marché. Et il n'y a pas longtemps, j'ai changé un jour autour d'un pot avec un enseignant-chercheur. Et quand il s'est présenté dans un petit coin, j'ai rigolé. Parce que vraiment, tout ce qu'il avait dit n'avait pas de cohérence même dans son raisonnement. Rien que la cohérence interne de ce qu'il disait. Il n'y en avait pas. Alors, ne parlons pas des fautes d'expression hein, qui ne cessaient de prononcer. Donc, vraiment, il y a un réel, réel problème. Et si on voit comment un peu on recrute également des enseignants au niveau de l'université, c'est encore là un autre problème. On ne peut pas recruter n'importe qui, excusez-moi, hein, pour lui demander de prendre en charge des classes de niveau supérieur, comme lui-même n'arrive pas à s'exprimer correctement vis-à-vis des étudiants. C'est un réel problème. Et les problèmes de copinage, etc. C'est énorme. C'est énorme. Le système éducatif ne reflète pas, disons, ça ne nous fait pas du tout honneur, et encore moins à ce qui représente le système en ce moment.
Monsieur Kogrenbo, en tant que parent d'élève, un autre aspect, les étudiants parlent de népotisme dans la distribution des heures de cours, plus de vacations est égal à plus d'argent. N'est-ce pas que les étudiants ont raison?
Monsieur Armando, merci. En tant qu'ancien secrétaire principal à l'université de Bangui, je suis sorti du système. Il y a un véritable malaise au sein de l'université de Bangui. Quand vous parlez de dysfonctionnement, j'aurais aimé que les responsables académiques soient devant nous ici pour qu'ils nous disent quelle est la situation actuelle de l'université de Bangui.
Ils ne souhaitent pas qu'on organise un débat sur le plateau.
Malheureusement.
Et voilà, parler de cette situation.
Malheureusement.
C'était juste ça.
Ce que je sais, à mon époque, il y avait 12 établissements. 12 établissements que compte l'université de Bangui. Sur ces 12 établissements, les rentrées sont toujours en différé. Et chaque établissement fonctionne à sa manière, à son modèle. Mais là où je ne suis pas d'accord avec mon co-débatteur, l'ancien doyen, quand on parle de la guerre, pourquoi la FASEG, par exemple, a déjà fini ses cours? Et pourtant, c'est l'un des établissements de l'université de Bangui. Pourquoi l'IGE a déjà terminé ses cours?
La FASEG, c'est quoi? Il faut dire
Faculté des sciences économiques et de gestion.
Voilà, merci beaucoup.
L'IGE a terminé ses cours. L'IST a terminé ses cours. CPU en a terminé. Mais prenons la faculté des sciences et de la santé. Ils n'ont pas encore commencé l'année 2020-2021. Est-ce que vous comprenez à peu près le dysfonctionnement qui existe, hein? La faculté des sciences et de la santé n'a pas encore commencé l'année 2020-2021, alors qu'un peu partout dans le monde, les gens ont déjà fini la mi-2020-2021. Ils sont en train d'aller 2021 à 2022. Et là-bas, ils n'ont pas encore commencé. C'est à tous les niveaux qu'il y a dysfonctionnement, et je le dis parce que je suis observateur de la vie sociale. Aujourd'hui, l'université de Bangui fonctionne en violation totale de tous les règlements juridiques. Je prends un exemple. En 2006, il y a un texte qui avait été signé. Que dit ce texte? En dehors du recteur de l'université de Bangui et des secrétaires principaux, c'est-à-dire que le sommet et le bas, ceux-là sont nommés. Ceux-là sont nommés. Tous les autres postes sont électifs. Depuis 2006 jusqu'à ce jour, on n'a jamais mis en application ce texte. Et aussi, il y a la non-maîtrise du circuit administratif au niveau de l'université de Bangui. On ne suit pas les procédures. Il y a parallélisme d'hommes. Comment voulez-vous que quelqu'un qui a été nommé par décret, un autre vient le relever par notre service? Ça se fait où, dans quel pays? C'est à tous les niveaux, je vous dis, à tous les niveaux. Et donc, il y a un véritable problème au sein de l'université de Bangui. On aurait souhaité que les responsables académiques soient là et que nous puissions relever cela devant eux et qu'ils nous disent quelles solutions ils préconisent.
Lorsque vous parlez de nomination, vous voulez parler de la politique qui s'ingère dans l'université ou bien dans le fonctionnement de l'université?
C'est regrettable, M. Armando. Quand on parle de l'université de Bangui, c'est que nous avons quand même affaire à des élites. Et c'est des gens qui ne doivent pas, en principe, se mélanger avec la politique politicienne. Or, aujourd'hui, au sein de l'université de Bangui, n'en parlons pas. C'est la politique qui prône. Et c'est pour ça que je dis, les postes
Tous les autres postes en dehors du recteur de l'université de Bangui, en dehors des secrétaires principaux, tous les autres postes sont électifs.
J'ai les doyens, les vice-doyens, les directeurs.
Tout ça, c'est électif. Et depuis 2006 à ce jour, ce texte n'a jamais été mis en application. À qui incombe la faute ?
Bon, à qui incombe la faute ? Je reviens vers le vice-doyen. Hein. Vous enseignez l'ancien vice-doyen, excusez-moi. Vous enseignez le droit. Oui. Mais est-ce que pourquoi on n'a pas arrivé à élire ? Vous-même, vous devez élire vos pairs, c'est-à-dire vos responsables. Mais pourquoi on n'a pas pu le faire ?
C'est une question de décision politique. Je crois que ce texte auquel il fait allusion, je crois que c'est un cadre qui est vrai, mais il faut un décret, un arrêté d'application. L'arrêté d'application doit être pris par le ministre de l'Enseignement supérieur pour que ce soit exécuté. Donc si l'arrêté d'application est pris, normalement, c'est vrai. Pour tous les postes, il n'y a pas de distinction du recteur jusqu'au doyen. En principe, on devait procéder par élection. Sous d'autres, si on les appelle des présidents d'université, ils sont élus. Donc en principe, ça devait être la même chose ici. Alors vous dites, à qui la faute ? Ben, c'est comme même la Constitution a prévu que les maires devaient être élus. Et donc depuis 1988, on n'a plus organisé les élections municipales, mais il n'y a pas eu d'élection des maires. Les maires sont désignés par le pouvoir élu. Vous allez dire à qui la faute ? C'est également la même situation. Alors je suis bien placé comme vous le dites. J'ai intégré l'université en 2011. Peut-être, je ne me suis pas fait comprendre tout à l'heure. En 2011.
Oui.
2011, je ne me suis pas fait comprendre. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette situation que nous vivons maintenant ? Quand je suis arrivé en 2011, j'ai intégré l'université en 2011. Décalage par rapport au calendrier académique existait déjà. Et ça ne représente pas le pouvoir actuel. Ce n'est pas la faute de...
Ça a daté.
C'est pour ça qu'il faut voir l'origine. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est pour ça que je dis qu'il faut comment on induise les gens en erreur. Ça a commencé depuis. Et maintenant, quand ça a commencé, ben, il faut petit à petit chercher à rentrer dans l'ordre. Moi, en tant que vice-doyen, j'avais programmé tout ça avec la rigueur pour rattraper l'année blanche. Enfin, pour rattraper le calendrier à l'avenir. On était revenu à normal quand on m'a nommé DG de l'ENAM. Et après moi encore, on est revenu avec l'entrée en système du CMLMD. Ça a compliqué la situation. Et puis, on en est là, avec des calendriers. Voilà. Même si ouais, le système, le calendrier académique ne doit pas fonctionner de cette manière-là. Je suis tout à fait entièrement pour ce point.
Apparemment, vous n'arrivez pas à dire à qui incombe la faute. Hein. Vous êtes en train de parler de la situation, oui. Mais vous ne nous suivez pas sur à qui on devrait indexer par rapport à cette situation.
Moi, je dis, mais quand. Ça remonte à tout là. Quand je dis 2011, il y a eu des événements politiques qui ont perturbé le fonctionnement de l'université, qui ont fait accuser du retard. C'est ça qui est logique, ça remonte à tout le maintenant. Petit à petit, on n'arrive pas à colmenter. C'est moi, à l'époque, à un moment donné, j'avais suggéré qu'on puisse peut-être déclarer une année blanche. Or, si on déclare une année blanche par rapport aux organisations internationales, on risque d'avoir des soucis. Proclamer une année blanche, ouais, ce que vous dites, est-ce que c'est de gaieté de cœur ? Moi, en tant qu'enseignant, je n'ai même pas de congé. C'est-à-dire qu'on travaille d'une manière continue. Voilà. Il n'y a pas de vacances, on y va de manière continue. Vous pensez que ça arrange les enseignants ?
Mais lorsque vous parlez donc, de l'année blanche, voilà. Il y a des années blanches qui ne dites pas son nom. Par exemple, les étudiants parlent de 12 mois, 15 mois.
Effectivement, c'est pour éviter l'année blanche qu'on est obligé d'aller à cette... Mais quand est-ce que... Enfin, le souci pour les autorités académiques, c'est d'arriver en sorte qu'on revienne à la situation d'antan. Or là, c'est un peu difficile quand on planifie. J'ai dit, il y a le problème d'infrastructure. FASEG a déjà fini. FASEG, on n'a que 2 amphis pour accueillir 1000 étudiants. 2 amphis qu'on partage. Enfin, c'est un amphi créé pour 2 facultés. Et là, maintenant, le FASEG a fini. Et voilà, la facture de droit s'est incrustée et qui utilise les 2 ça en ce moment pour rattraper, pour aller vite dans le cas du CMLMD et faire tout. Donc il y a le problème d'infrastructure.
Monsieur Louis-Marie, vous voulez réagir ? Je vous vois, je donne la parole à monsieur Raymond.
Je suis entièrement d'accord avec le vice-doyen. Au fait, les professeurs n'ont pas de congé. Ils n'ont pas de congé. Et quand on dit qu'il faudrait revoir les fiches, etc., aujourd'hui, un peu partout dans le monde, l'enseignement, c'est des recherches sur les réseaux. Les gens ne font plus de fiches. C'est-à-dire que quand on dit question de fiches, c'est un faux débat. Parce qu'il y a même des professeurs, je sais, au niveau de l'Université de Bangui, qui restent dans leur bureau, ceux qui font la vacation, et ils indiquent un site où les étudiants vont sur ce site-là pour prendre les cours. Et donc, dire qu'on ne revise pas les fiches, on ne fait pas ceci, non. Le problème aujourd'hui, c'est que tous ces professeurs-là n'arrivent pas à se reposer. Il n'y a ni congé sabbatique, il n'y a ni congé académique. Donc voilà tous les problèmes.
Oui, monsieur Raymond Adouma, vous venez d'écouter, comme s'il y a un laxisme à ce niveau qui provoque tout ce dysfonctionnement dont les étudiants en ont fait mention tout à l'heure.
Merci Armando. Je suis ravi que le doyen par intérim est un éminent cadre de MCU. Il a bien dit que c'est la politique qui gère le pays. Et donc, je suis quand même un peu déçu. Chaque fois que l'on dit que ça date d'il y a longtemps, Mais si on est en politique et qu'on aspire à gérer un pays, parce qu'on a des solutions pour régler des problèmes, parce qu'on a la capacité de régler. Or, il se trouve que ce pouvoir n'a pas la solution et n'a pas la capacité. Parce qu'on ne peut pas continuer à indexer le passé, et parce qu'on ne va pas repartir dans ce passé là maintenant. Pour dire, bon, on ramène les compteurs à temps. On doit évoluer. Et donc, si on ne se sent pas capable, l'opposition est prête à venir dire, voilà comment nous allons faire pour redresser la situation. Et c'est pour cela que nous réclamons vivement la prise en main de la gestion de ce pays. Vous avez compris pourquoi nous insistons, parce que pendant plus de 5 ans, l'éducation, le système éducatif n'a fait que sombrer. Et donc, il faut des hommes capables qui se disent qu'il y a eu un passé. Voilà comment on peut faire pour pouvoir aller de l'avant. Or, je rappelais qu'on a deux institutions tenues par des universitaires et donc on espérait mieux pour le système éducatif. Mais c'est totalement le contraire, ce qui est quand même grave. Parce qu'on pouvait mieux espérer pour l'éducation que des gens qui sont dans ce domaine rompus à gérer ce système. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, donc c'est un échec.
Vous voulez répondre, monsieur?
Non, mais je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup parce que si nous ne faisons pas attention, nous allons rester là jusqu'à demain sans trouver aucune solution. Mais ce que je voudrais demander ici, c'est, puisque nous sommes autour de cette table pour débattre cette question, à quelle date, quelle période nous pensons que le dysfonctionnement au niveau de notre système scolaire va changer pour que nous puissions rentrer dans les rangs, dans ma compréhension, c'est-à-dire une année scolaire normale. À quand nous sommes ici, société civile, parti politique, majorité, opposition, à quelle date nous pensons véritablement que ce qui est en train de se faire en mal va vraiment s'arrêter? Nous avons écouté qu'effectivement, il y a des établissements au niveau de l'enseignement supérieur qui ont fini, donc qui respectent leur année scolaire ou universitaire. Nous avons appris qu'il y en a d'autres qui n'ont même pas commencé les années, qui sont considérées comme passées. Mais là où nous n'avons même pas mis le doigt, c'est comment les enseignants sont payés. Je voudrais en dire un mot. Vous savez que l'université a moins d'enseignants, professeurs, enseignants à l'université de Bangui. Et l'université de Bangui fait donc recours à ce qu'on appelle les vacataires, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas attachés à l'université de Bangui, mais qui viennent donner des enseignements pour compléter le nombre de professeurs absents. Mais grave, c'est que dans ces vacataires se trouvent les professeurs
titulaires.
C'est-à-dire que vous enseignez, après vous arrêtez d'enseigner, vous dites maintenant que j'ai enseigné ce cours jusqu'à ce niveau.
Sinon mon salaire.
C'est mon salaire, mais le reste, ça devient des vacations. Et donc, on a des gens qui sont vacataires en tant que tels, mais il y a des titulaires qui sont vacataires sur les cours qu'ils sont chargés d'enseigner.
Et c'est ce que les étudiants ont déploré, parce que dans les horaires de vacation, il y a certains titulaires qui récupèrent beaucoup plus et qui n'ont pas le temps pour finir toutes ces heures parce qu'il y a l'argent dedans.
Non, mais je vais vous dire pire. C'est que quand le gouvernement sort une masse d'argent pour payer les vacataires, pour qu'ils s'intéressent au système scolaire, mais ce sont les gens qui sont déjà fonctionnaires qui se servent d'abord dans leurs propres vacations avant de payer les vacations des autres. Donc vous comprenez qu'il y a un problème. Il y a un problème dans notre système éducatif. Demandons peut-être dans des débats de ce genre, appelons le gouvernement pour savoir qu'est-ce qu'on peut mettre comme mécanisme pour que nous puissions retourner à une année scolaire normale, avec l'obligation de chaque enseignant, qu'il soit du primaire, qu'il soit du secondaire, qu'il soit de l'universitaire. Comment on peut faire pour que nous puissions rentrer dans l'ordre?
Et c'est pourquoi la présence du représentant du rectorat s'avère nécessaire dans ce débat, mais malheureusement, ça n'a pas marché.
Alors, mais dans ces conditions, le prochain débat, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander au ministre de l'Éducation nationale de nous inviter à l'Université de Bangui pour faire ce débat en présence de Ndekeloka et des autres radios. Comme ça, on va sur place là-bas, on voit les salles de classe, on voit les enseignants, on prend les documents à notre possession et puis on en parle une fois pour toutes.
On évolue pour vraiment boucler. Oui. Parce que lorsqu'on parle de contenu de cours qui n'est pas réactualisé et qui date, comme a dit certains étudiants, depuis des années, parce que c'est le même polycope, deux ans, trois ans, quatre ans, et si l'étudiant termine, il peut donner à son cadet. Tout ça, cela incombe à qui? Ça, c'est pas seulement la politique de l'université, mais c'est la politique personnelle de l'enseignant.
Personnel, oui. Il y a l'enseignant et puis il y a aussi le système. En fait, je sais pas, nous ne nous faisons pas d'illusions. Je suis enseignant, c'est vrai, moi j'actualise mes cours. Parce que chaque année je vais en Europe, parce que quand ma famille est restée là-bas, je vais et j'en profite. Quand je suis là-bas, je suis étudiant. Je rentre en bibliothèque, je fais des recherches. Et puis je viens, vous voyez, mes cours, bon, par rapport aux gens, moi je n'ai pas de problème, j'assume mes cours correctement. Les autres, je ne suis pas là pour juger les uns et les autres. Est-ce que c'est des cours démodés ou bien classiques?
Oui, vous avez écouté les gens.
Donc, c'est ce que les étudiants ont dit. Et donc, parce que moi, alors, voyez la bibliothèque de Bangui, l'université de Bangui. Allez vérifier, même tous les hommes politiques veulent aller voir. Est-ce que cette bibliothèque-là est bien garnie, etc. Comment un enseignant peut faire des recherches lorsqu'il n'a pas la documentation? C'est un système à mettre en place. Il faut situer le contexte globalement. Je suis vraiment très ravi quand le représentant de l'opposition démocratique dit « Ah ben, des anciens universitaires, ils devaient, ça devait être mieux, c'est un échec. » Très bien. C'est l'opposition démocratique qui a la solution magique. Quand ils seront au pouvoir, comme Joséphine Ange Gardien, ils vont claquer le doigt comme ça.
Donnez-nous
automatiquement, les choses vont se faire. Automatiquement, Joséphine Ange Gardien, ils feront le miracle. Et puis tout va se dérouler très bien, etc. Comme ils le promettent. Non. Vraiment, gérer un pays, ce n'est pas aussi facile. Hein. Personne n'est l'alpha et l'oméga du développement d'un système, monsieur de l'opposition. Personne n'est l'alpha ou l'oméga. Un parti politique a gagné les élections, il met en œuvre son programme politique à terme. Bon, c'est un processus qui est continu. Le développement du système éducatif du pays en général ne se résume pas à la personnalité d'un seul individu ou d'un seul parti politique. C'est un processus tout à fait.
Mais maintenant que le problème persiste, qu'est-ce qu'il faut faire?
Parce que
la raison de ce débat, c'est de trouver la solution.
Mais oui, justement, vous voyez, la solution, c'est qu'on s'assied autour de la table et qu'on ne se dise pas qu'on est alpha et oméga du développement du système. On va dire, maintenant, le problème est ainsi. Comment trouver des solutions pour... Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte. Là, avec l'opposition démocratique, je suis d'accord. Les anciens du supérieur et puis monsieur le ministre Bindoumi l'a répété tout à l'heure. Parents pauvres. Comment, moi je le dis, un universitaire avec un niveau doctorat, ben, je gagne un salaire de merde alors qu'un magistrat que j'ai formé, qui n'a que la licence, gagne mieux que moi. Ouais. Donc c'est un système, je ne sais pas s'il faut une solution magique. Vous allez dire au président ou bien au président de l'Assemblée nationale, augmenter le salaire.
Mais puisque non, tout, alors, à puisque tout à l'heure vous parlez de la politique.
Mais attendez, oui je dis, mais attendez, je vous explique. Les enseignants à travers le syndicat universitaire a déposé un dossier pour l'augmentation. Parce que figurez-vous, dans la sous-région, des enseignants de rang magistral comme moi, maître de conférence, gagnent au moins dans la sous-région. J'ai été à des colloques, j'étais avec mes collègues, 2 millions à partir de 2 millions de francs CFA. Des anciens maîtres de conférence comme moi. Je peux vous. Si vous m'avez consulé, j'aurais dû amener ma fiche de paix. Maître de conférence en République centrafricaine, je gagne 400 000 francs. Vous trouvez ça normal? 400, exactement. Avec l'indemnité de créer.
Et c'est tout cela qui. Alors,
c'est tout cela et que je suis d'accord.
Qui agent dans le népotisme, le clientélisme,
voilà, comment doit-on
la
faire
corruption,
pour
tout et tout.
Sortir de ce système-là? Alors, il faudrait qu'on réfléchisse et que moi, je trouve que c'est même de l'inégalité. Celui qui est surdiplômé, il gagne moins que celui qui est moins diplômé. C'est l'inégalité, mais c'est un système qu'il faut corriger. Et il faudra, naturellement, qu'on convoque des états généraux.
Monsieur Louis-Marie Kogringo, sur cette question, rapidement, pour qu'on boucle.
Je rebondis. Et je dis, en écoutant le doyen, il justifie l'harcèlement au sein de l'université.
Non, pas du tout.
Calmez-vous. Il justifie les notes qu'on falsifie.
Non, je n'ai pas dit ça. Je ne vous fais pas dire ce que
j'ai
dit.
Je vous dis, monsieur Armando, ne viens pas à l'enseignement celui qui veut venir. Pour être enseignant, on vient par vocation et non, on vient par nécessité. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai un doctorat, je peux aller enseigner. C'est faux. On vient à l'enseignement par vocation. Je vous dis, quand nous sommes rentrés à l'école normale, on était 80 élèves enseignants. Le premier cours, notre professeur de psychopédie a dit, ceux qui veulent s'enrichir n'ont qu'à aller dans les régies financières. Ici, nous faisons du sacerdoce. On ne vient pas à l'enseignement pour s'enrichir. Mais notre richesse, c'est quoi? C'est quand un jour, vous allez retrouver un président, il croise les bras pour vous dire bonjour, monsieur. Exactement. Voilà votre richesse.
Exactement.
Et non, ce qu'on est en train de nous dire ici sur les ondes. Je vous dis, la deuxième semaine, quand on est revenu, nous sommes restés 110. Parce qu'il y en a qui n'ont pas supporté et ils pensaient qu'on venait à l'enseignement pour s'enrichir. N'est pas enseignant celui qui veut devenir enseignant. Et ça, j'insiste. Et lorsqu'on parle de harcèlement sexuel au sein de l'éducation, au sein de l'université, quand on parle de falsification des notes, est-ce que ce n'est pas dû au fait qu'ils pensent qu'ils sont mal payés et qu'ils font ces truanderies pour en avoir plus, pour joindre des deux bouts? Point d'interrogation.
Voilà, point d'interrogation, mais je renvoie la question si monsieur l'ancien vice-doyen de la faculté juridique de l'université de Bangui puisse répondre.
Oui. Alors, est-ce qu'il y a falsification de l'autre? Non, cela n'influe pas. Je dis, comme vous dites, vous avez si bien raison, il ne vient pas à l'enseignement qui veut, c'est un sacerdoce. Et c'est ce que nous accompagnons. Mais on demande. Il n'est pas quand je dis au niveau de la sous-région, les enseignants sont mieux payés, ben également, je pense que la même chose devait être même chez nous, en République centrafricaine. Ben, Il faudrait créer les conditions pour permettre aux enseignants de s'acquitter.
Mais je peux reformuler la question pour vous demander, est-ce que c'est parce que les enseignants sont mal rémunérés, hein, les enseignants du supérieur, c'est pourquoi il faut avoir plusieurs heures pour enseigner et puis vous êtes
ce n'est pas ça la question.
Et il y en a qui sont dans des privés.
Ce n'est pas ça la question, plusieurs heures, non. Je pense qu'il y a confusion par rapport, vous voyez, tout enseignant a un volume horaire. Lorsque vous dépassez ce volume horaire, ça devient ce qu'on appelle, c'est des heures supplémentaires.
Heures supplémentaires.
Voilà, ce ne sont pas des vacations, comme on dit. Ce sont des heures supplémentaires. Moi, je suis, j'ai un volume horaire, je dois, si je suis nommé à un poste de responsabilité, c'est prévu dans les textes, je dois 25 heures à l'université de Bangui. Or, en tant que maître de conférence, je dispense des cours de la première année jusqu'en master 2. C'est-à-dire, je dépasse les 25 heures. Les 25 heures, je le dois à l'État. Et le reste, si je fais par exemple 400 heures, on défalque les 25 heures, le reste, ça connaît ce qu'on appelle les heures supplémentaires. Ce ne sont pas des vacations. Bon, on assimile ça à la vacance.
C'est vous-même qui le dites souvent.
Et donc, les vacations, il y a aussi des professeurs vacataires. Ceux qu'on recrute pour venir.
Oui, c'est ce que M. Bindoumi a dit. Monsieur Bindoumi, je vous donne 30 secondes pour qu'on.
Oui, moi, je veux dire, on est en train de jouer entre vacataires et heures supplémentaires. Ce qui est sûr, c'est que les heures supplémentaires, on les met sur le bulletin de paye. On ne les met pas sur la liste des vacataires. Malheureusement, à l'Université de Bangui, ce qu'on appelle aujourd'hui heures supplémentaires, c'est aligné sur la liste des vacations et ça devient des vacations. Voilà.
Oui, quelques secondes, donc, monsieur Adama.
Je crois que le représentant du pouvoir voudrait que l'opposition donne une idée de la façon de sortir de cette situation. Moi, je veux dire que cela, c'est à deux niveaux. Le premier niveau, effectivement, il faut redéfinir la politique. Peut-être à travers les états généraux, je partage aussi, ou autre chose. On peut réunir les enseignants, réfléchir et trouver une bonne manière pour pouvoir s'en sortir. Et le deuxième niveau, c'est le niveau opérationnel. C'est-à-dire qu'au niveau de l'université, par exemple, ou ailleurs, on est capable de connaître le contenu des enseignements que les professeurs donnent. Et on peut savoir également si ce contenu évolue. Et on peut les sanctionner à partir de là. On peut également savoir comment, pourquoi tel ou tel étudiant a plus de notes alors qu'il n'est pas performant en cours d'année. Parce qu'il y a des TD, il y a des systèmes d'évaluation continue. Donc, il y a quand même un effort déjà à faire au niveau de ces différents établissements pour pouvoir améliorer le fonctionnement de
des efforts à faire par les responsables. Hein.
Voilà. Et donc, il faut un système de contrôle et il faut des sanctions qui accompagnent cela. Ça ne se fait pas. Parce que, effectivement, ceux qu'on a mis là sont issus du pouvoir en place et on ne doit pas les contrôler. Ils font à leur tête parce qu'ils se disent que rien ne m'arrivera, j'ai une couverture derrière. Et ça, ils polluent même l'image de leur système. Bon, je ne dis pas heureusement, parce que ça ne fait pas du bien à la population, ça ne fait pas du bien à l'avenir du pays, mais ça nous donne des coups de franches pour pouvoir récupérer le pouvoir, vous comprenez.
C'est tout fin de ce débat politique de cette semaine. Merci à toutes et à tous d'avoir été des nôtres. Nous parlions de dysfonctionnement au sein de l'université de Bangui avec la plainte des étudiants qui déplorent l'inaction du rectorat dans l'organisation de la rentrée académique uniformisée. Merci à nos invités, Joseph Bindoumi, président de la Ligue centrafricaine de droits de l'homme LCDH et magistrat hors hiérarchie. Merci à Louis-Marie Kogringbo, secrétaire général de l'organisation démocratique syndical des travailleurs de Centrafrique. Merci aussi à vous, M. Alexis Nduyabela, constitutionnaliste et ancien directeur de l'École nationale d'administration et de magistrature, ENA, membre du parti au pouvoir. Et merci à vous, M. Raymond Adouma, membre de la coalition de l'opposition démocratique 2020, ancien ministre. Armando Nguendi, c'est moi. J'ai bénéficié de l'appui de Fabiola Dos Santos, journaliste chercheur à l'université de Duisburg, Essen. La partie technique était assurée par Diane Stéphanie Bokula. Rendez-vous à la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Prenez bien soin de vous car on ne vit qu'une seule fois dans la vie. Au revoir.